Cette semaine, on parle beaucoup des CHSLD, la chaleur accablante qu'il y a là. Bon, on est en canicule déjà en mai, mais comment ça, pourquoi les CHSLD n'ont pas de la climatisation? C'est comme si l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. On s'entend que ces gens-là sont vulnérables. Il y a une réelle problématique. Moi, ça me choque. Là. Je voulais parler à un avocat à propos de ça, savoir c'est quoi les droits, pourquoi on accepte ça en tant que société. Et je suis avec Maître Patrick Martin Ménard, de Ménard Martin Avocat, qui est avec moi. Bonjour, Maître Martin Ménard.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est un sujet très, très sensible. On parle de climatisation, mais est-ce que c'est normal? Quand on parle de droits donnés aux aînés, là, est-ce que c'est normal ce qui arrive là?
Non, absolument pas. D'autant plus que c'est une problématique qui est connue depuis très longtemps. Hein. C'est pas cette année ou l'an dernier qu'on a découvert qu'il y avait une majorité des chambres en CHSLD qui n'étaient pas climatisées. Mm-hmm. Ça s'inscrit de façon plus large dans le cadre de la négligence vraiment systémique qu'on voit à l'endroit des CHSLD là, qui durent depuis plusieurs années. Donc,
expliquez à nos auditeurs la négligence systémique. C'est intéressant. Là, on reconnaît le mot système là-dedans, mais vulgarisez-nous ça. Là, c'est quoi la négligence systémique?
Ben, c'est en fait là, le fait que le système de soins de longue durée au Québec est depuis plusieurs années sous-financé, pratiquement laissé à l'abandon, là, essentiellement. On a donc des infrastructures qui sont vétustes, qui sont inadéquates, et on a de gros problèmes de manque de personnel, évidemment, dans un contexte où la clientèle augmente de plus en plus dans ces centres-là aussi. Donc, c'est une combinaison de facteurs.
Avec cette négligence-là qui vient du système, que bon, les gestionnaires de CHSLD, on, en quelque sorte, doit vivre avec ça. Est-ce que c'est une excuse disant, ben regardez, le système, ça va pas bien, donc on fait pas d'efforts pour climatiser ou aider? Là?
Non, absolument pas. Absolument pas. C'est quelque chose qui, en fait, qui a réussi, tant qu'à moi, à être fait il y a de cela plusieurs années. Mmh. On a vu déjà, bon, en fait, l'été dernier, la canicule qui a mené à un sombre bilan, notamment au niveau des CHSLD, là, donc une clientèle déjà vulnérable qui se retrouve dans des chambres qui ne sont pas climatisées, quand il fait plus que 30 degrés dehors, c'est clair que c'est des conditions qui ne sont pas acceptables. Là, en plus, cette année, on se retrouve dans le contexte de la COVID. Là, on a des explications du gouvernement qui nous disent « Ouais, on n'a pas vraiment pu mettre en place le plan dans les derniers mois parce que les CHSLD étaient confinés. Ouais. » D'accord, mais c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui date de longtemps et on se retrouve dans une situation où cet été, dans un contexte encore plus vulnérables, ces gens-là vont se retrouver confinés à l'intérieur dans des lieux qui ne sont pas climatisés.
Oui, c'est très grave.
Ça fait inacceptable.
Non, c'est inacceptable. Et à quelque part, il y a des responsables pour ça. Il y a une responsabilité. Là, on dit le système, on dit les centres n'ont pas fait ce qu'il fallait. Où ils s'engagent dans la responsabilité? Est-ce que le gouvernement peut être poursuivi s'il y a un décès dans un CHSLD? Est-ce que il y a des poursuites possibles dans ce domaine-là?
Oui, pour nous, il est clair que l'obligation là, de donner une chambre climatisée s'inscrit dans le cadre des obligations des établissements et des CHSLD en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Là. Donc, ils ont des obligations légales qui ne sont pas respectées présentement.
OK, donc cette obligation-là est déjà dans la loi. C'est un peu sous forme, c'est pas écrit, ça doit être climatisé, mais ils doivent être dans des conditions adéquates, là, je veux dire.
Absolument.
C'est un peu ça, le général. Et est-ce qu'il y a une différence entre les CHSLD publics et privés, dans le sens que le bon public, c'est le gouvernement, privé, c'est plus... est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, ben c'est pas climatisé parce que le client ne paye pas assez, par exemple, donc paye pas assez cher de loyer?
OK.
Non, ça, ça
absolument pas. Les patients du système de santé dans leur ensemble ont des droits en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux. Et par ailleurs aussi, en dehors de ça, sont également titulaires de droits fondamentaux, dont le droit à la vie et à l'intégrité, okay. à la sécurité de leur personne et le fait d'être placé dans des conditions comme ça, alors qu'ils sont dans des situations de vulnérabilité, va clairement à l'encontre de ces droits-là.
Mm-hmm. Donc, vulnérabilité, mais pourquoi on a fait ça? C'est une négligence en se disant que la chaleur n'était pas si dommageable?
Ben, je vous dirais, ça vient du fait aussi qu'il y a plusieurs des infrastructures de CHSLD qui sont complètement vétustes, qui datent en fait là, d'une autre époque. Il y a une question là-dedans de configuration des immeubles, il y a une question de systèmes électriques qui n'ont pas la capacité de soutenir déjà des unités d'acclimatisation individuelles pour chacune des chambres. Et donc, on a finalement laissé le problème prendre une très grande ampleur de telle sorte que maintenant, on ne peut le corriger à court terme. On se retrouve devant une situation comme ça.
On ne peut pas le corriger. Puis à vous entendre, je comprends bien qu'on ne peut pas seulement dire, ben écoutez, on n'est pas capable de remédier à la situation. Le pas capable ne va pas exclure le gouvernement ou les CHSLD d'une responsabilité là, vis-à-vis de ça. Là.
Non, dans la mesure où ça fait plusieurs années que ça dure, puis s'il y avait réellement une volonté politique de régler ce problème-là, on aurait pu le faire il y a longtemps déjà. On se retrouve aujourd'hui dans une situation, on ne peut pas dire demain matin, on va climatiser l'ensemble des chambres. Ça prend des travaux, approfondis, là, bon, au niveau électrique, au niveau des bâtiments. Puis à cause d'une mauvaise planification, d'un manque de volonté politique, on se retrouve dans cette situation-là.
Mais bon, vous connaissez bien, vous faites beaucoup de droit médical à votre cabinet. Est-ce que ça prend des fois pour que ça bouge? Parce qu'on en parle beaucoup, comme vous l'avez dit, il y a eu des canicules, il y a eu des morts, c'est nouveau. Puis là, en plus de la COVID, mais ça n'a pas été fait. Là. On n'a pas mis l'énergie, l'argent pour que ça se règle. Bon. Est-ce que des fois, ça prend un exemple, une condamnation en cours pour faire changer des choses? Est-ce que ça prend l'intervention des tribunaux dans ce dossier-là?
Je pense que les tribunaux peuvent effectivement jouer un rôle. Plus largement que ça aussi, je pense que c'est aux citoyens, c'est aux proches des gens en CHSLD de se lever et de demander des comptes au gouvernement. Et on est quand même dans une démocratie, donc justement, je pense que le gouvernement a des comptes à rendre à la population par rapport à ça. Puis oui, les tribunaux, évidemment, peuvent jouer un rôle. Nous, on espère toujours ne pas avoir à se rendre là, mais s'il faut qu'on le fasse, on va le faire.
OK, je comprends bien. Évidemment, c'est un dossier que vous surveillez de près. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir une action collective pour ce genre de dossier-là? Là?
Il faudrait évidemment regarder les faits spécifiques pour voir si ça s'y prête. Une action collective, bon, on parle beaucoup d'action collective, mais c'est pas non plus, je vous dirais, c'est pas toujours approprié. C'est pas la panacée, en fait, là. Donc, ça prend vraiment un nombre de facteurs qui sont réunis. Mais c'est tout à fait une possibilité si on peut établir, par exemple, que le gouvernement a commis une faute qui a affecté de la même façon un groupe défini de personnes. Ça peut s'y prêter.
Je comprends. Parce qu'il y a des situations qui sont graves, là, qui peuvent amener à des poursuites. Si on vient à penser ou à avoir la preuve que quelqu'un est décédé de chaleur, là, et là, évidemment, le pire des dommages, là, il y a des dommages à la famille. Mais est-ce que de subir ça pour ces aînés-là, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder ou c'est ce qu'on ne souhaite pas, mais de subir ça, est-ce qu'on est presque à la maltraitance de laisser quelqu'un à la chaleur comme ça? Il y a un certain dommage, même si on n'est pas malade ou on ne décède pas de ça, là.
Absolument, absolument. Moi, pour moi, une personne qui est laissée à la chaleur dans une chambre à plus de 30 degrés, une personne âgée, vulnérable, pour nous, c'est clairement une situation de maltraitance.
OK, je comprends. Et quand je parle d'intervention des tribunaux, parce que le politique, on voit clairement que ça n'a pas été une priorité. Bon. On a vu dans certains cas, moi j'ai vu des jugements de certaines cours, il pourrait y avoir des décisions s'il y a des actions qui sont prises, non seulement de dédommager pour un préjudice que quelqu'un pourra avoir avec tout ça, là, on connaît ça, mais d'ordonner de je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce que le tribunal ordonne au gouvernement de régler cette situation-là ou...
Oui, ben c'est ça. Là, c'est un autre type de recours qu'on appelle une demande d'injonction. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, par exemple, on arrive à prouver certaines choses, notamment au niveau du préjudice qui est suivi, au niveau de la balance des inconvénients, il y a moyen de forcer le gouvernement ou un établissement spécifique à remédier à la situation.
Je comprends. Donc, le tribunal pourra ordonner de remédier et donner, comme on a vu dans d'autres dossiers, là, comme on l'a vu dans l'aide médicale à mourir, justement, vous étiez dans ces dossiers-là avec Mme Gladue. Donc, de dire, je vous donne tant de temps pour remédier à la situation parce qu'on touche aux droits et libertés, ça peut être considéré comme de la maltraitance.
C'est ça. Dans le cas, par contre, de l'aide médicale à mourir, là, on contestait la validité constitutionnelle de certains articles du code criminel puis la loi provinciale. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat honnête, ça avait été ça. C'est que nos clients ont pu avoir accès à l'aide médicale à mourir.
Et il y avait eu un délai pour remédier à la problématique que vous aviez soulevée. C'est un peu ça. Puis donc, on peut faire un parallèle. Il y a une problématique soulevée, évidemment, puis c'est la chaleur, mais on a vu durant la COVID-19 beaucoup d'autres choses, malheureusement. C'est sûr que moi, je voulais en parler à l'émission parce que je ne peux pas croire qu'une société, nos aînés, c'est important qu'ils soient bien traités. C'est difficile d'apprendre qu'ils sont dans ces conditions comme ça. Merci beaucoup, Maître Patrick Martin-Ménard, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera. On va suivre ça de près du cabinet Ménard-Martin. Merci, bonne journée.
Merci.
Bye-bye.
Merci, au revoir.